mode d'emploi. Mode d'emploi. Sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission des chômeurs et des précaires.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien dans l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et précaires, sur fréquence Paris Pluriel, votre radio à tous et à toutes. C'est l'émission, bien sûr, des chômeurs ce soir encore et pour toujours. Nous espérons bien sûr que ça va bientôt s'arrêter, que le chômage va diminuer, mais apparemment ce n'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas à l'ordre du jour des politiques qui nous gouvernent. Ce soir, une émission particulière puisque nous allons parler, comme nous l'avions déjà fait à plusieurs reprises, de l'austérité en Europe. Nous avions parlé du Portugal, de l'Angleterre, de l'Italie, on avait parlé
de
la Grèce. Ce soir, c'est le tour de l'Espagne, puisque l'Espagne est au bord de l'explosion. Donc ce soir, je suis avec Ludo. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Voilà, c'est Gilles au micro et bien sûr Claude à la technique. Alors on va partir tout de suite, Ludo, sur le problème que rencontre l'Espagne aujourd'hui, puisqu'apparemment, on sait que la Grèce va peut-être éventuellement sortir de l'euro. C'est en cours de discussion, j'imagine, au niveau européen. Mais est-ce que l'Espagne va prendre le même pied ou comment ça se passe en Espagne?
Alors, il s'agit effectivement, bon, c'est pas du tout la même taille. La même configuration, c'est-à-dire que le pays, c'est pas la même taille en fait de l'économie. Bon, c'est l'économie est la quatrième espagnole est la quatrième économie mondiale et elle représente la moitié moins que le PIB de la France, mais elle représente à la fois le PIB de l'Italie, de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande réunie. Donc, si l'Espagne faisait défaut, l'euro n'y résisterait pas et donc l'euro ne survivrait pas, en fait, à la crise espagnole. Voilà. Mais cela étant dit, ce n'est pas la crise en faire de l'économie. Bon, je suis désolé, hein, mais ce n'est pas la crise de l'État espagnol ou de l'endettement de l'État espagnol qui a certes des difficultés, mais là il s'agit en fait de la crise du secteur bancaire espagnol. Et pourquoi? Donc ça va nous obliger à revenir en fait au début de la crise de 2008. Et on essaye d'expliquer un peu pourquoi structurellement ça se passe pas très bien en Europe. Et pourquoi? C'est parce que en fait on appelle l'économie espagnole et ou l'économie irlandaise ou l'économie du Royaume-Uni en fait des économies clones de celles des États-Unis, c'est-à-dire c'est des économies qui ont appliqué les recettes libérales, et pour tout dire néolibérales, à la mode, hein, en vogue hein, aux États-Unis et au FMI. Alors je sais bien que c'est un mot un peu fourre-tout, mais quand on parle d'économie néolibérale, ça veut dire en fait une libéralisation des marchés financiers.
C'est-à-dire des prix peut-être aussi. Donc.
Alors d'abord des marchés aussi. Il n'y a qu'en France hein, qu'il y a eu un système de prix vraiment très réglementé. Pas ailleurs, bon, ça fonctionnait pas comme ça. Et donc quand on parle de libéralisation des marchés financiers, ça veut dire que les capitaux sont libres hein, de s'investir où ils veulent. Donc ça va de pair avec ce qu'on appelle la globalisation, hein, donc entre pays, et c'est aussi une libéralisation du secteur financier, c'est-à-dire qu'on peut investir ses crédits à la bourse plus facilement. Donc pour prendre un exemple, si vous avez par exemple le fonds de pension machin, va pouvoir investir dans telle entreprise côté en bourse. Voilà. Bon, je schématise volontairement, mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est directement lié en fait à la globalisation, à la mondialisation. La particularité des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, c'est d'avoir considéré une bonne fois pour toutes qu'une partie de son industrie n'était plus rentable, sous l'effet effectivement de la pression
de la concurrence
des pays émergents. Et à ce titre-là, d'en avoir pris acte et d'avoir développé d'autres aspects de son économie, donc en l'occurrence l'économie des services, mais aussi l'économie par exemple immobilière, qui est un grand qui était un grand au cours de cette décennie.
Un grand projet.
Alors qui était un grand projet. Alors par exemple des Américains effectivement, parce que Alan Greenspan considérait que qu'un pays de propriétaires était un pays qui était attaché à son
sa
modèle
terre,
politique,
déjà, presque, oui.
À sa terre, mais aussi à son modèle politique et qu'il avait des choses à perdre. Bon, mais en réalité c'est une réallocation de richesse de l'activité industrielle qui fait défaut quelque part. En clair, c'est-à-dire que les capitaux vont là, ou les capitaux des particuliers ou des entreprises vont là où ils sentent qu'il y a une possibilité de croissance financière et en substitut par exemple de la bulle internet qui a explosé en 2001 par exemple, hein, c'est la création de la bulle spéculative immobilière et la grande activité économique, j'ai envie de dire, des années 2000. Alors, j'exagère, c'est schématique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Espagne, ça a été porté à un point qui est extraordinaire, et aux États-Unis aussi, et en Angleterre aussi. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne en fait, hein? La politique néolibérale est celle-là qui dit, il faut que l'économie tourne, et l'économie doit tourner sur la consommation. Et donc, il y a une espèce de remplacement de l'activité productive par la consommation. Donc, la consommation des ménages, donc intérieure, tire la croissance. Donc, c'est déjà le cas en France, hein. C'est le cas, bien évidemment, aux États-Unis, mais beaucoup plus, dans des domaines beaucoup plus importants, parce que les ménages américains ont l'habitude, c'est une habitude de s'endetter. De s'endetter pour faire tourner leur économie. Et c'est vraiment un mode de fonctionnement dont on n'a vraiment pas idée ici. Hein. Si vous ouvrez un crédit aux États-Unis pour une voiture, si vous avez une carte de crédit, c'est un signe positif, d'investissement positif. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique « je dépense sans compter ». Enfin, je ne dépense pas ce que je n'ai pas du tout. Il y a même des systèmes très très perfectionnés, y compris au Canada, hein, où vous commencez par avoir une carte de crédit avant toute sorte de liquidité. Bon, alors ce qui se produit concrètement, c'est qu'il y a quand même un problème aux États-Unis et dans ces économies, c'est que les salaires n'augmentent pratiquement plus dans certains secteurs, notamment dans un secteur industriel.
Et automobile, principalement.
Voilà. Et on a substitué, si vous voulez, disons que l'économie d'Europe du Nord est très, l'économie industrielle de l'Europe du Nord est une économie qui est très ciblée sur des segments de marché très particuliers. Donc,
sur par exemple, le marché, outils, oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Donc, elle est très à la haute valeur ajoutée. Il est évident que l'industrie, américaine de l'automobile, elle est un peu à saturation.
Mais excuse-moi parce que, ouais, parce que je vais faire le néophyte, hein, complet, mais. Pour consommer, il faut gagner sa vie. Et pour gagner sa vie, il faut avoir des salaires décents et un travail, etc. Mm. On voit que dans ces pays-là, les pays, pas spécialement les pays émergents, mais enfin les pays qui sont apparemment faibles au niveau de l'euro en ce moment, que les salaires sont bas, que donc les salaires étant bas, les gens ne peuvent plus consommer puisqu'ils payent leur loyer avec presque la totalité de leur salaire. Donc comment tu veux sortir de cette histoire, en fait?
Parce que, c'est très simple.
Voilà, dis-moi.
C'est très très simple. Voilà. C'est par l'endettement.
D'accord.
Voilà. Et c'est comme ça que la croissance. Je parle des États-Unis au lieu de parler de l'Espagne, d'ailleurs.
Mais
c'est comme ça que la croissance américaine, espagnole et américaine a fonctionné. C'est-à-dire que plus le salaire baisse, le salaire réel, n'entends, hein, c'est pas le salaire nominal, c'est le salaire réel. Plus le salaire baisse, plus vous amputez une partie des besoins nécessaires. Et les besoins nécessaires, c'est quoi? C'est par exemple l'assurance maladie aux États-Unis. Un gros problème aux États-Unis. C'est vos besoins de logement. Vos besoins d'études. Voilà, un besoin de base, le minimum de base. À partir du moment où vous amputez vos salaires, il devient tout d'un coup impératif pour les banques et pour le secteur privé de compenser cette baisse de salaire. Et comme aux États-Unis on a cette pratique-là, et en Angleterre aussi, les banques se sont vues proposer. Créer et proposer en fait des crédits à des conditions qui en apparence étaient très 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 acceptables. C'est-à-dire
entre 0 et 1% quoi.
Alors le problème c'est qu'il y a des taux variables.
C'est ça, voilà.
Mais c'est-à-dire c'est une ingénierie financière très très complexe. Mais pour prendre toujours cet exemple aux États-Unis, pourquoi la crise des subprimes, c'est que aux États-Unis vous avez la dette privée représente 98% du PIB. C'est énorme.
Énorme,
contre,
effectivement.
On va dire 45, 50 en France. Hein. Et là, en Espagne, on est passé de 40, 50, donc quelque chose de normal en 2000, à 80% en 2010. Donc là, on voit le besoin des ménages de se financer. Et alors de se financer sur, par exemple, effectivement, en achetant une maison. Hein, donc ça, c'est... Alors, pour, effectivement, pour se loger. Sachant que dans l'espèce de bulle spéculative qui se crée autour du marché de l'immobilier, finalement, on a un effet de ce qu'on appelle un effet de richesse positive. C'est que sa maison vaudra bien plus dans 5-10 ans qu'elle ne vaut maintenant. Et alors on est arrivé à un point quand même de qui est presque une perversité du système, c'est qu'aux États-Unis, le prêt hypothécaire, c'est-à-dire j'hypothèque ma maison que je viens d'acheter, oui, et ça me sert en fait à payer tous les crédits à la consommation.
Voilà. Genre crédit revolving et compagnie, quoi.
Exactement. D'accord. C'est-à-dire que vous voyez, des crédits sont adossés à d'autres crédits.
Oui,
je garantis tous les crédits à la consommation que j'ai sur la maison que je suis en train de payer. Et ça n'est plus clair. Donc, quand un crack se produit, c'est-à-dire que des ménages ne sont plus solvables, à ce moment-là, les banques récupèrent le crédit qu'elles ne peuvent plus honorer. Donc, le crédit devient pourri, elles perdent en actifs.
Bien sûr.
Et c'est le big crack. Donc aux États-Unis, ça a été un crack phénoménal, mais évidemment que dans certains pays, le crack a été beaucoup plus tout aussi violent et qu'il ne l'a été en France. Donc il faut imaginer que en Irlande et en Espagne, on a appliqué strictement les politiques du FMI et les politiques néolibérales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que votre endettement public doit baisser, absolument. Hein, c'est normal, on va pas, oui. L'État ne va pas, là, je dis, c'est normal, c'est ironique. Hein. Mais bon, c'est normal, vous pouvez pas, un État peut pas être endetté, c'est tout ce qu'on entend aujourd'hui. Hein. Bon, donc, en réalité.
Donc, baisser jusqu'à 3% éventuellement le public, etc.
Alors, 3% c'est annuel, mais surtout, c'est l'endettement cumulé. Donc,
c'est
l'endettement
ça,
cumulé,
sûr, oui.
L'endettement cumulé, donc, pour donner une idée, aujourd'hui en France, il représente 78% du PIB. Alors, le PIB, c'est une année de production de richesse. En Espagne, on l'avait baissé à 45-50.
D'accord.
Au Royaume-Uni, 45-50.
D'accord.
D'accord.
Excuse-moi, Ludo, je te propose d'écouter une petite chanson pour qu'on puisse reprendre notre souffle. Ensuite, on reprend la parole. Merci.
Je mesure.
1, 2, 3, 1, 2.
Bien sûr, vous avez bien reconnu tous Agnès Jaoui qui chantait Dans mon pays. Et c'est une femme qui fait plein de choses différentes, du cinéma, de la chanson. Et dans les deux domaines, en tout cas, la chanson et le cinéma, performante, compétente. Et voilà, c'est une très belle chanson. Donc on reprend cette émission, vous êtes sur Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires, vendredi soir, avec Ludo au micro. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Gilles également et bien sûr Claude à la technique. Donc ce soir, c'est une émission comme nous l'avions prévu. On voulait faire un tour de l'Europe au niveau des plans d'austérité. Ce soir, c'est l'Espagne. Donc on parlait juste avant de la chanson de la dette des pays qui sont peut-être en train de sortir de l'euro ou pas encore. Alors Ludo, on en était sur la dette
des
Américains.
Pour vous dire l'absurdité de la situation, c'est que pour prendre le chiffre de la dette cumulée de l'État espagnol, et on était en 2010 à 53% du PIB, alors qu'en France on est à 78%. Donc l'État espagnol est moins endetté que les Français. Le seul problème, c'est que son déficit public actuel par an, donc, est de 11%. Et que le déficit public français, lui, est de 7%. C'est-à-dire qu'en fait, la crise est beaucoup plus importante en Espagne, comme on l'a tous constaté,
qu'elle
n'est en France. Du coup, la baisse de recettes fiscales et la baisse de consommation est tellement importante qu'on ramasse moins d'impôts et qu'on a un déficit qui se creuse mécaniquement. Alors, ce qui se passe dans le cas espagnol, c'est qu'il y a un autre effet. Donc comme on l'a dit, hein, les 3% de croissance annuelle espagnole d'avant la crise, c'est aussi une croissance qui est interne, qui est intérieure et qui a été essentiellement tirée par la bulle spéculative immobilière sur le modèle anglo-saxon, le modèle anglais et américain. Ça n'empêche pas qu'en fait toutes ces économies, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne, sont des pays qui, ayant choisi délibérément un libre-échangisme important et donc une dérégulation de la sphère financière, sont des pays dont la balance commerciale et la balance d'échange est structurellement déficitaire. Alors aux États-Unis, le dollar reste une monnaie de référence et donc ça a peu d'impact sur la monnaie. Puisqu'en fait, le dollar lui revient et sert de monnaie de réserve. Hein. Donc, l'Amérique peut jouer sur le dollar pour maintenir, pour ne pas dévaluer. Enfin, ou pour dévaluer si elle le veut. En revanche, pour l'Espagne, donc pour la Grande-Bretagne, qui est en dehors de l'euro, tant qu'elle était en perte de croissance, elle peut encore emprunter à l'extérieur, pour financer son déficit et pour financer sa monnaie. Et dans le cas de l'Espagne, en fait, on est quand même dans un cadre monétaire qui est rigide, qui est celui de l'euro. Mais l'accès au marché pour se financer est encore possible. À partir du moment où on est en crise, là, pour le coup, les agences de notation regardent la balance commerciale, donc ce qui sort et ce qui rentre, en fait, du pays. Et ça devient un indicateur du fait ou non que l'État soit en capacité de rembourser sa dette. Voilà, c'est un peu stupide, mais en principe, hein, un État qui ne peut pas, qui produit moins que ce qu'il consomme, en principe dévalue. Voilà. Or, l'État espagnol, au jour d'aujourd'hui, cumule à la fois une dette extérieure plus une dette
intérieure,
ouais. Une dette extérieure, une dette de son État, et à un moment donné, son accès au marché devient insupportable. Ouais. Et il y a un troisième paramètre qui rend la crise en Espagne beaucoup plus lourde et beaucoup plus lourde de conséquences en fait que celle, par exemple, je sais pas, de la France, on va dire, voire de l'Italie. C'est son endettement privé. Il faut rappeler que la crise de 2008 vient de l'endettement privé. Et l'endettement privé, c'est l'endettement des ménages. Comme on l'a dit, en fait, l'endettement des ménages en Espagne est au moins aussi important, un tout petit peu moins important qu'aux États-Unis et qu'en Angleterre. Mais quand vous avez un endettement des ménages aussi important, ce qui est en première ligne, c'est les banques qui ont prêté aux ménages. Et qui ont prêté à des sommes astronomiques, hein, donc des États-Unis. Bon, or, du coup, c'est des banques qui sont en première ligne. Avant d'apurer les dettes, il faut quand même il faut massivement injecter des liquidités. Donc prêter
donc,
massivement aux banques.
Billet, quoi.
Non, même non, pas. Mais bah, justement, non, puisque le traité européen l'interdit. C'est vrai que c'est les banques privées qui prêtent à d'autres banques. Donc les banques européennes qui prêtent aux banques espagnoles, en fait. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur des prêts consentis par la BCE.
Des taux d'intérêt particuliers.
Alors c'est des taux d'intérêt bas, puisque c'est pour les banques. Donc, on comprend là la politique européenne qui est de recapitaliser les banques espagnoles, parce qu'il y a un risque de crack évident en fait, hein, des banques espagnoles. Le seul problème, c'est que comme le faisait remarquer un économiste, c'était Guillaume Duval en fait dans Alternative économique, on a fait de l'endettement privé tout un cheval de public, de l'endettement des États tout un cheval de bataille, la rigueur, l'austérité, nanana, mais on n'a pas vraiment surveillé l'endettement privé. Et pour le coup, on a laissé l'État, en l'occurrence l'État espagnol, régler ses problèmes avec ses banques, hein, et c'est-à-dire ne pas totalement apurer les comptes, c'est-à-dire sortir du bilan tout ce qui était définitivement qu'on pouvait considérer comme non remboursable. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que nous, à cette antenne, on dit souvent, c'est-à-dire quand une dette n'est pas remboursable, il faut la restructurer. C'est-à-dire en supprimer au moins une partie.
Oui. Ce qu'avait fait d'ailleurs Mitterrand avec les pays africains, à une certaine période, il avait supprimé la...
Et c'est ce qu'on fait aussi, et c'est une question qui se repose. Oui, en l'occurrence, ce que soulevait un des économistes, c'est que finalement, il y a une telle consanguinité entre les banquiers et les élites politiques qui vont diriger les pays, que les 10 élites politiques, elles sont pas forcément favorables à voir leur banque perdre tant d'actifs et accepter d'être dans le rouge. Et du coup, on a nous un problème bancaire sur les bras, donc en l'occurrence en Espagne, et on n'est pas loin du crack quelque part. Hein, c'est-à-dire que 3 ans après, on n'a pas pris la pleine mesure de la crise qui vient des subprimes et plus généralement, en fait, de ce que ça constitue pour l'économie réelle, c'est-à-dire d'un endettement privé qui est censé tirer la croissance intérieure et donc se substituer à des économies qui sont délibérément peu productives. En résumé, on saborde une industrie ou on ne crée pas une industrie et puis à la fin on provoque de l'endettement pour faire tourner l'économie et à la fin on se rend compte que il y a un petit problème et qu'il y a un certain déséquilibre et qu'en l'occurrence c'est les ménages qui payent le prix fort parce que effectivement il faut dans certains pays il faut s'endetter pour arriver à vivre.
Alors, est-ce que tu penses qu'on doit continuer à prêter, enfin, pas nous, personnellement, mais enfin, que les banques doivent continuer à prêter aux autres banques sans cesse, quitte à faire monter la dette, ou justement, parce que la question se posait, en fait, sur le problème, si le problème était conjoncturel, puisque c'est une conjoncture aussi, c'est un phénomène qui est pas un épiphénomène, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait effectivement une crise bancaire ou monétaire, etc. Mais j'ai l'impression que c'est quand même aussi une crise structurelle, c'est-à-dire que la façon dont a été fait l'Europe, dans sa structure économique, amène effectivement à ce genre de crise aujourd'hui. Est-ce que effectivement trop d'austérité ou trop de rigidité ne permet pas justement de... Vous dites qu'il aurait fallu plus de souplesse ou plus de...
On rentre dans un débat qui est celui actuel, de savoir si la Banque centrale allemande, mais non, la Banque centrale européenne peut jouer son rôle de banque centrale, et c'est-à-dire un rôle de banque centrale, c'est d'être le prêteur en dernier ressort quand les banques capotent. Donc en principe, c'est plutôt le cas puisque elles prêtent à des taux assez minimal aux banques, et puis est capable de mettre de la monnaie. Par exemple, bon, ça, ils veulent pas en entendre parler, ou faire tourner la planche à billets, en fait. Donc, bon, il s'agit justement du débat sur les eurobonds. Alors évidemment, amène la crise, plutôt, ou aggrave la crise. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que, à un moment donné, effectivement, la seule solution pour régler la crise, donc, vu par nos élites, et j'allais dire les élites allemandes, c'est-à-dire de désendetter, conduit effectivement à provoquer une montée mécanique du chômage. Mécanique, donc il faut rappeler qu'en Espagne, 20% des personnes sont au chômage. Donc ça représente un cinquième de la population.
Surtout les jeunes.
C'était en 2010, depuis le chômage s'est encore aggravé. Et puis, il y a aussi toutes les politiques d'austérité qui suivent et qui vont avec. Donc, les politiques d'austérité, c'est, par exemple, une baisse des salaires des fonctionnaires, une baisse des retraites des pensions, une baisse des indemnités des chômeurs. Et puis, au passage, une baisse tendancielle des salaires. C'est-à-dire qu'on va négocier. Ce qui se passe en Espagne, c'est qu'on négocie branche par branche, on va dire, hein.
Oui, mais pas tous les salaires.
Alors justement, non, la politique, c'est là, la politique d'austérité a des effets très pervers, c'est que, en définitive, une politique d'austérité, une vraie politique d'austérité, c'est une compression de la masse monétaire, et une compression de la demande pour équilibrer un pays, une balance commerciale qui est déficitaire. Donc en résumé, en écrabouillant la demande intérieure de l'Espagne, sa balance commerciale serait censée être au même niveau. Donc être équilibré. Donc ce qui signifie que l'État finalement encourage des négociations entre patronat et syndicats sur la baisse des salaires des entreprises. Donc on a aussi dans les accords dans ce qui a été négocié, on a prévu par exemple une augmentation de salaire de 2% en 2013. Maximum 2% en 2013. Ouais. Voilà, pour tous les salariés. Donc il est bien évident que cette politique là à un moment donné, en plus d'aggraver les déficits, et alors là je vous parle pas parce que la crise bancaire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a plus de crédit, puisque les banques sont obligées de se recapitaliser. Donc, à la limite, les grandes entreprises peuvent encore... finalement, elles ont peut-être de la trésorerie, elles peuvent s'en sortir, mais toutes les PME, c'est elles qui pourvoient en emploi, qu'il s'agisse de l'Espagne, de l'Italie ou de la France. C'est la caractéristique des économies du Sud, d'avoir des PME qui font tourner l'économie des pays nationaux. Celles-là, elles sont complètement pannes. Donc, clairement, la politique d'austérité telle qu'elle est prévue par l'Europe, qu'elle est prévue à la Commission européenne, qu'elle est voulue par la chancelière, conduit l'Espagne vers un appauvrissement programmé. Et à tel point d'ailleurs que finalement, ça devient un champ d'expérimentation néolibérale, c'est-à-dire que peut-être que finalement c'est vrai, que peut-être que finalement on est trop payé. En fin de compte. Et peut-être qu'effectivement, il faudrait encore réformer le marché du travail. Alors, je rappelle que, par exemple, en Espagne, la norme du contrat, aujourd'hui, ça va presque être le CDD. Et que, avant la crise, le salaire moyen d'un jeune qui rentrait sur le marché du travail, c'était 1000 euros. Ouais. Vous voyez, ouais. Donc
c'est très dur. Ouais.
Voilà.
Alors quels sont éventuellement, on en parlera peut-être. Peut-être que, oui, si tu pouvais mettre une petite chanson et ensuite on reprendra la parole. Merci.
Es para ti este cantar. Al cielo si hay Dios.
Et oui, ce qu'on entend dans Paris et sa banlieue, tant mieux. Ça rime en plus. Voilà. Donc c'était La Mala Reputación de Paco Ibáñez, une chanson bien sûr écrite et chantée d'abord et avant tout par Georges Brassens. Chanson en espagnol, ça va de soi parce que c'est une émission sur l'Espagne. C'était un petit clin d'œil, il fallait absolument le faire ce soir. Très bien. Alors moi j'aimerais quand même parler d'une banque qui me paraît importante, c'est la 4e banque espagnole. Hein. Donc c'est Bankia, qui en fait c'est un conglomérat bancaire qui vient d'être nationalisé aujourd'hui et dont la faillite menace le fragile équilibre financier espagnol. Elle a été constituée en juin 2010 sous l'égide du Parti Populaire, donc la droite espagnole. Bankia est la fusion de plusieurs banques en difficulté. Deux ans plus tard, tout bascule. En l'espace de 3 mois, Bankia, qui assurait avoir réalisé 309 millions d'euros de bénéfices nets en 2011, se retrouve avec des pertes de 3,3 milliards d'euros. Un gouffre financier dissimulé lors de la présentation des comptes, aux actionnaires bien sûr, à la Commission nationale des marchés et des valeurs, sans leur apport d'audit obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'audit fait sur cette banque, et donc ils ont fait ce qu'ils ont voulu, et ils ont tout perdu, hein, carrément plus que tout même, puisqu'ils sont dans le rouge. Alors ce qui est très intéressant, pourquoi je vous parle de cette banque maintenant, c'est que vous vous souvenez bien sûr des indignés qui ont fait fureur sur toute la planète. Hein, En fait, c'est eux qui se sont encore mobilisés aujourd'hui. Alors pour beaucoup, ils sont avocats, juristes, journalistes, et travaillent d'arrache-pied sur le dossier Bankia, en dehors des heures de travail. En plus de l'information publique disponible, ils épluchent les données confidentielles que leur transmettent de l'intérieur des actionnaires, courageux, et des employés de la banque. Et leur mission, c'est de mettre tous ces gens-là en prison, puisqu'ils considèrent qu'ils ont fait des malversations, enfin, toutes sortes de choses.
Et donc, répréhensible.
Voilà. Bien sûr, ceux qui jouent avec l'argent, qui payent. Hein, il faut qu'ils passent, ou qu'ils remboursent, ou qu'ils payent.
Mais c'est mieux qu'aux États-Unis, hein, parce que je crois que c'est Paulson ou Ben Bernanke a fait passer une loi pour assurer l'immunité aux banquiers qui étaient à l'origine du crack de 2008.
Tout à fait. Oui, oui, oui. Il faut savoir quand même que, juste pour finir sur ce sujet, c'est que l'Espagne, on n'est pas pourtant à son premier cas de faillite bancaire, hein, celui d'un sauvetage avec l'argent des contribuables, hein, et ça va de soi, en 2011. Elle avait dû, en avril 2011, grâce au fonds de restructuration bancaire espagnol, injecter 2,8 millions d'euros pour sauver la Caja del, excusez-moi pour l'accent, del Mediterráneo. Donc c'est la banque de méditerranéenne de Caja. Donc voilà. Donc c'est pas la première fois qu'une banque fait faillite en Espagne.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une banque qui avait été plus ou moins nationalisée, d'ailleurs, hein, où l'État avait dû rentrer, avait dû prendre le contrôle. Et puis il y avait aussi le sauvetage en 2008, hein, parce que on avait dû injecter massivement des liquidités. Mais c'est pour dire l'ampleur quand même de la bulle spéculative en Espagne et de ce que ça représente comme danger, hein, pour les économies qui ont choisi ce type de développement. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que finalement en Islande, où on a fait aussi un peu joujou avec les produits financiers, on a décidé, enfin le peuple a décidé par référendum de ne pas rembourser la dette. Ça lui représente tout d'un coup un gain financier, ça lui représente un ballon d'oxygène qui lui permet aujourd'hui d'envisager un futur un peu plus serein, sans avoir forcément emprunté sur les marchés extérieurs. C'est toute le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que vous reniez une partie de vos dettes. Et vous vous retrouvez dans l'impossibilité de vous financer à l'extérieur et donc de continuer à vous endetter à l'extérieur. Donc ça représente un cas dramatique parce que c'est une cessation de paiement, hein, de fait. Mais ça veut dire aussi que ce reniement de la dette doit se faire de façon concertée, c'est-à-dire et en accord avec les pays autour. C'est-à-dire que je résume, mais si par exemple demain, donc moi, directeur de banque espagnole, je décide, j'en ai bien la tête, et je décide de ne pas rembourser mes traites, donc je suis garanti par le gouvernement, m'appuie dans cette démarche, et ben je ruine une partie de mes collègues, on va dire du Crédit Agricole par exemple en France, ou de la Deutsche Bank. Et oui, et donc il y a toute une partie des banques européennes qui sont menacées par le reniement de la dette. Donc ça veut dire qu'il faut forcément négocier et qu'il faut forcément que ça se fasse à l'échelle européenne. Et à l'arrivée, effectivement, c'est vrai, il y a des gens qui sont perdants. Et la vraie question, c'est de savoir qui est perdant. Est-ce que c'est le fonds spéculatif? Est-ce que le fonds de pension Bon, c'est un peu dur pour les gens qui ont mis leur argent pour se payer une pension à la retraite.
Oui, mais c'est la solidarité. Il faut penser à ça. Il faut penser à long terme, en fait, non?
Oui, il faut penser à long terme sur cette question-là. Mais est-ce que c'est celui qui a acheté des obligations de l'État espagnol et qui? Ah oui. Et quelle classe de rentier est concernée? Parce que ce qu'on dit pas, c'est que...
Non, mais il y a un principe de base. Je sais pas si tu vas pouvoir me dire si j'ai raison ou tort sur ce sujet. Si tu vas me confirmer ou infirmer le truc. C'est quand même que si on peut pas prêter tout le temps de l'argent, puisqu'on prête de l'argent, sachant très bien qu'on pourra pas être remboursé, puisque les gens, ils pourront pas rembourser l'argent qu'ils doivent. Donc, la meilleure façon de faire, c'est ou de donner par générosité, donc à perte, en sachant qu'en faisant ça, on sauve l'euro, donc on sauve aussi soi-même.
Voilà. Et c'est ce qui fait qu'en Grèce, par exemple, on a restructuré la Grèce de façon. Alors, c'est toujours les banquiers qui s'en sortent, il faut savoir, ouais, c'est peine. Ouais. Que, bah oui, parce qu'en
Grèce. Ils sont
pas
SDF, les banquiers, c'est sûr.
En Grèce, on a restructuré la dette de façon à ce qu'en fait, la dette des investisseurs publics se substitue aux banques. Mais oui, pour éviter que, parce qu'on a quand même prévu qu'éventuellement il pouvait y avoir une incapacité à rembourser que la Grèce ne puisse pas rembourser sa dette, donc il y a un défaut de l'État grec. Et donc, dans ces circonstances, autant que l'État qui soit, autant que les personnes qui payent la note soient en définitive l'État, enfin, l'État, les États européens, plutôt que les banques privées. Parce que, en principe, un État a la possibilité, lui, de se refinancer. Normalement, il est censé pouvoir émettre de la monnaie et pouvoir se refinancer. Donc, il joue le rôle de prêteur en dernier ressort. Et donc, cette idée aussi, quand on nationalise, c'est aussi avec cette idée qu'à la fin, la Banque centrale renfloue tout le monde au prix d'une inflation, ce qui signifie une baisse du niveau de vie de tout le monde. Mais là, on est dans un schéma où, en refusant mordicus, en fait, de toute inflation, on préfère organiser des plans d'austérité qui conduisent à baisser effectivement le niveau de vie tout en accroissant la dette. Ce qui fait que ce régime, en fait, n'est pas tenable sur le long terme. Parce que plus l'État, l'État espagnol provoquera une cure d'austérité, et moins il sera en capacité de rembourser sa dette. Donc, on se retrouve toujours dans l'espèce de quadrature du cercle. Alors, pour donner quelques chiffres quand même, pour donner une idée, hein, quand même des plans de rigueur, parce qu'on en Espagne, parce qu'on en a un peu parlé tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, donc, je disais, en juin 2010, le taux de chômage était à 20%.
Il a encore augmenté, énorme, ouais.
Voilà, de sa population, il a encore augmenté. Évidemment, les jeunes sont les plus concernés. Donc, le chômage des jeunes atteint jusqu'à 40% de sa population. Alors, entre 2011 et 2010, on lui a demandé 15 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Donc ça, c'est les mesures d'austérité, et qui se déclinent alors par une réduction des salaires en 2010 des fonctionnaires, donc en moyenne 5% à partir de juin 2010, un gel des salaires en 2011, 13 000 licenciements dans l'administration générale de l'État. Les agences de l'État, du travail de l'État à but lucratif sont légalisées, les agences de travail intérimaire, et donc peuvent travailler dans le secteur public. C'est-à-dire qu'on va substituer aux fonctionnaires, en fait, des gens, par exemple, des intérimaires, pour faire tourner la machine de l'État, qu'on va moins payer, bien sûr. Les prestations sociales sont sabordées. Donc, par exemple, les allocations pour les vieilles personnes dépendantes sont réduites de 5,2%. Les allocations logement sont réduites de 20%. L'allocation de naissance de 2 500 €. Pour les supprimer, donc ça pour les politiques natalistes, c'est pas super. L'allocation de chômage final, donc c'est en fait c'est une espèce d'allocation qui a un équivalent RMI, est supprimée. Elle était 420 €. Et les agences de travail intérimaire ont leur mot à dire dans l'octroi d'allocations aux travailleurs. Vous avez bien entendu ça. En résumé, si vous êtes travailleur et que vous refusez un travail d'une agence intérimaire, l'agence intérimaire peut signaler ça à l'organisme qui paye votre allocation. Voilà. Et enfin, suppression du paiement mensuel de 426 € pour les chômeurs de longue durée. Vous voyez que le coût social est énorme. Et je ne parle pas de la réforme des retraites. La réforme des retraites, en France, on est à 62 ans. En Espagne, on est bientôt à 67 ans.
Ouais. Hein.
Les niveaux de pension ont bien sûr été gelés pour 2011. À l'exception des pensions minimales garanties, bien sûr. Et il est proposé d'augmenter la période de contribution minimum requise pour avoir droit à une retraite. Alors actuellement, c'est de 15 ans. Il faut 15 ans pour avoir un minimum vieillesse, en fait. On risque de le pousser un peu plus, ce qui pénalise effectivement, par exemple, une mère de famille qui a repris son travail sur le tard suite à une séparation avec son conjoint et qui risque de devoir travailler jusqu'à 70 ans pour pouvoir avoir droit au minimum vieillesse. Donc il y a vraiment toute une partie des gens en Espagne qui sont extrêmement fragilisés. Et d'ailleurs, c'est sur le site du ministère des Affaires étrangères qui recommande aux expatriés qui veulent aller en Espagne d'y réfléchir à deux fois, de façon à ce qu'ils se réveillent pas avec un mal de crâne. Alors évidemment, il y a des réductions dans les services publics et dans les investissements publics aussi. Alors par exemple, le budget des infrastructures est réduit de 30%. Donc depuis, 4-5 ans, c'est la première fois que on sape, en fait, si vous voulez, tout ce qui est endettement lié à l'investissement ou les crédits d'investissement pour les infrastructures, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse ces infrastructures se dégrader pour réduire la dette, sachant que les investissements d'aujourd'hui, en général, sont les richesses de demain.
Bien sûr.
Souvent.
Oui,
donc,
oui.
Les infrastructures...
Oui, c'est pour justifier, effectivement, la non-intervention.
Voilà. Alors, est aussi réduite, alors, je sais pas, l'aide en pays en voie de développement, par exemple, de 20%, le budget du ministère, bon, ça, c'est... Voilà. Mais une chose qui est un peu plus... par exemple, on privatise aussi. C'est une façon de... Puisque l'État se retire, puisqu'il n'a plus les moyens d'investir... ou même s'il en recherche des liquidités, on a privatisé 49% de l'exploitant de l'aéroport public et des aéroports de Madrid et de Barcelone. Privatisation de 30% de la loterie nationale espagnole, des groupes du jeu de hasard. Bon, ça, on va pas se plaindre. Mais on voit quand même le jeu de l'économie libérale qui consiste finalement à... l'État se retire de l'économie, donc il n'assure plus les besoins minimums de sa population, ce qui conduit à se retirer encore une fois de l'économie.
Puisque
finalement, le relais pris par les investissements privés ne parvient pas à subvenir à la bonne santé des pays concernés.
Je te propose, si je peux, Claude, une troisième petite chanson avant de finir cette émission. Ensuite, on reprend la parole sur l'Espagne. Merci. C'était Tout Silencio de Luz Casal, donc, qui est une très grande chanteuse espagnole, sachez-le, voilà, je vous le dis. Donc on reprend cette émission, c'est Mode d'emploi, sur Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires, sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, voilà. Ce soir, c'est sur l'Espagne, sur les plans d'austérité en Espagne, le problème de l'euro, etc., avec bien sûr Ludo au micro. Bonjour Ludo.
Bonsoir.
Voilà, bonsoir. Toujours Claude à la technique et Gilles, bien sûr, au micro avec vous également. Donc on va reprendre cette émission, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même parler des négociations collectives sur la réforme du travail. Alors dis-moi,
c'est bien, c'est qu'il faut réformer le marché du travail.
Ouais.
Tout simplement, c'est-à-dire qu'une réforme en aménioute, comme on l'a dit, hein, l'Espagne était le champion du monde du CDD avant la crise, malgré ses 3% de croissance. C'est dire, en fait, si la répartition des revenus n'était pas bien répartie, et si une large partie des revenus n'étaient pas des revenus du travail. Voilà, donc il fallait compter que le salaire des jeunes qui étaient embauchés était à peu près à 1000 euros. Hein. Voilà, donc 1000 euros en CDD, ça crée beaucoup de jeunes qui restent chez leurs parents, et voire qui retournent chez leurs parents aujourd'hui. Donc, et ça, c'est un phénomène un peu historique, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez plus vous loger, ça fait presque une unité économique qui disparaît. Et puis ça, bon, bah, le marché de l'immobilier, lui aussi, est en baisse, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, bon, c'est pour dire concrètement ce que c'est que la paupérisation en Espagne. Donc, sur le front des négociations collectives, parce que tout ce qui a été appliqué jusqu'à maintenant comme politique d'austérité, il avait été par le gouvernement socialiste.
Est-ce que ça implique plus de flexibilité de l'emploi? Est-ce que ça implique
Bien sûr, qu'entre temps, la droite a finalement, donc le Parti populaire espagnol a remporté les élections, puisqu'évidemment, oui, hein, les électeurs n'étaient pas très contents. Mais sauf que c'est pas la droite qui va changer de politique, en fait. Hein. Elle est obligée de gérer la crise, et donc elle est toujours dans son credo d'aller réformer encore le marché du travail. Et ça, c'est un effet, des politiques en Europe, où finalement, que ce soit la droite ou la gauche, on s'en tient à des politiques européennes qui conduisent simplement la droite à être un tout petit peu plus à droite que la gauche. Voilà. Alors sur le coup des réformes du travail, les réformes du travail permettent de licencier plus facilement les travailleurs et à moindre coût qu'auparavant. Donc l'indemnité de départ, par exemple, passe de 45 jours par année travaillée à 33 ou à 25 jours en fonction des contrats. Bon, vous me direz, c'est un petit peu ridicule, c'est des économies d'eau de chandelle, mais les entreprises auront moins de difficultés à licencier temporairement les travailleurs en période difficile. Donc c'est une référence à la situation et aux perspectives de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'en fait il sera plus facile de licencier des travailleurs permanents sur la base des pertes réelles ou prévues ou prévisibles, ce qui fait que c'est bien, au moins on va désengorger les tribunaux du travail en Espagne. Hein. C'est-à-dire que voilà. Donc tout ce que les libéraux ont rêvé, la crise l'a fait, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut entendre. Et comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, en ce qui concerne les salaires, le gouvernement donne aux entreprises davantage de possibilités de s'écarter de l'accord sectoriel et de payer des salaires moins élevés. Et donc les lignes directrices en matière de négociation salariale pour les 3 années à venir ont été fixées au début 2010. et ses lignes directrices limitent la négociation salariale à un maximum de 1% pour 2010, 1,5% pour 2011 et 2 à 2,5% pour 2012. Inutile de vous dire qu'avec la crise qui s'annonce, ces augmentations de salaire ne seront pas tenues. Et de toute façon, ces chiffres sont des maximums, de sorte que les accords sectoriels ou les accords d'entreprise peuvent aller beaucoup moins loin. Voilà. Donc je voulais finir. Deux articles.
Oui.
Donc ouais. Un qui est signé par Joseph Stiglitz, qui s'appelle Europe après l'austérité. Vous pouvez trouver cet article sur l'Observatoire de l'Europe, traduit de l'anglais, qui explique très très bien les problèmes en fait, notamment de la Banque Centrale Européenne, et un autre qui est dans Basta, qui s'appelle Crise de l'euro, qui est l'Allemagne peut-elle renoncer au diktat de l'austérité. C'est une interview d'une politologue donc allemande, Birgit Meinkopf, qui est professeure à l'École supérieure d'économie et de droit de Berlin et qui est membre du comité scientifique d'attaque Allemagne, et qui nous parle très très bien de l'état d'esprit qu'il y a outre-Rhin et voilà de l'espoir que pourrait susciter l'extrême gauche française.
Merci bien Ludo. Alors une petite annonce juste avant de terminer, rapidement. Quelle fut pas notre surprise de découvrir dans le guide de l'enfance distribué par la commune UMP de Saint-Cyr-l'École, au chapitre concernant le règlement des inscriptions scolaires et périscolaires, que les enfants dont l'un des parents ne travaille pas ont moins de droits que les autres. 2 jours de restauration au lieu de 4. Les centres de loisirs une fois par mois au lieu de tous les mercredis. Enfin bref. L'UMP a encore frappé, voilà, c'est encore les chômeurs qui trinquent. Bravo, merci messieurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mes chers électeurs, à la prochaine élection. Hein. Voilà, c'était mon petit clin d'œil. Très bien, cette émission se termine. Merci Ludo qui a sauvé cette émission ce soir.
Il faut dire que notre invité principal n'est pas là.
Donc c'est pas grave. Donc cette émission se termine. Merci messieurs et dames de l'avoir suivi. Merci Ludo d'avoir sauvé cette émission ce soir encore. Hein. Voilà, technicien, pas professionnel, très professionnel. Très bien. N'oubliez pas que Voix d'Emploi, c'est tous les vendredis soirs. Alors restez vigilants et surtout ne lâchez rien. Bisous aux filles et poignées de mon garçon. Salut.